Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Séance Live, l'actu des blocs ciné.
Et en ce lundi 27 novembre, on démarre tout de suite avec notre superbe équipe et on a le plaisir de retrouver Thomas Camacho et Pierre Delors. Bonjour Thomas, bonjour Pierre de
FunFootage.fr. Bonjour, ça va Betty?
Mais ravi de vous retrouver ici en studio.
Ça fait du bien de se revoir.
Mais bien sûr, plus il y a plein de news, je vois que oulala, ça va envoyer du lourd et merci parce que je vous adore de pouvoir me faire plaisir comme ça, c'est... Je la laisse.
Oui, oui, okay. Ça donne des frissons.
Ça y est, je suis toute bleue. Alors dites-moi tout.
T'es toute bleue, je suis toute bleue. J'adore.
Bah oui, c'est ça, hein, n'est-ce pas?
Mais bon, oui.
Les auditeurs l'ont reconnu bien évidemment et c'est Avatar 2, James Cameron, qui donne de plus en plus d'informations.
Mais oui, puisqu'on a appris fin de semaine dernière que James Cameron a donné, enfin, on le savait d'une certaine manière, on savait que notre ami Iron Jim, l'homme de tous les records et de tous les défis, va encore rebattre les cartes du médium cinéma, puisqu'il nous a annoncé déjà depuis la sortie du premier film en 2009 que Avatar 2, 3 serait tourné en partie sous l'eau, enfin en performance capture sous l'eau.
D'accord, après les airs, l'eau.
Ouais, voilà, c'est une vieille rumeur d'abord qui traîne depuis 2010, c'est-à-dire peu après la sortie du premier Avatar. Il avait annoncé qu'il y aurait deux suites et la rumeur voulait que le deuxième se passe dans les océans de Pandora, c'est-à-dire qu'on quitte la jungle et qu'on aille sous la mer. La rumeur allait un peu plus loin et disait que le troisième se passerait sur la lune de Pandora. Alors ça, on n'en sait rien, ça n'a pas été confirmé, mais déjà... James Cameron, juste avant ce week-end, là, nous a annoncé que le tournage sous l'eau avait commencé. Mmh. Et qu'il avait, comme d'habitude, fidèle à sa réputation de pousser le cinéma dans ses derniers retranchements et de pousser ses acteurs à leur maximum, qu'il avait obligé ses jeunes acteurs à retenir leur respiration de 2 à 4 minutes pour s'entraîner.
Sans scaphandre.
Pour des tournages sous-marins, en piscine. Et il a développé des nouvelles techniques de performance capture pour les enregistrer directement sous l'eau. C'est-à-dire capter leurs mouvements. La performance capture, c'est ça. On met une combinaison avec plein de traceurs. Et l'ordinateur prend tous nos mouvements, les mouvements de notre visage, notre bouche, notre regard. Et donc là, ils étaient vraiment en tournage sous l'eau.
Oui. Ils ont pris des cours, quoi.
Oui, alors...
D'apnée.
C'est ça. Ça a été comment jouer sous l'eau avec toute la technologie, tout l'attirail que les acteurs porteront. Et donc le défi, il a déclaré, je vais vous le dire tel quel, hein. Oui, nous le faisons. Cela n'a jamais été tenté auparavant et c'est plutôt délicat dans la mesure où le matériel de motion capture est basé sur un système optique avec des marqueurs qui sont photographiés par des centaines d'appareils. D'accord ? Le problème avec un tournage sous l'eau n'est pas la partie sous-marine, mais la frontière entre air et eau qui forme un miroir en mouvement constant. Il réfléchit tous les points, tous les marqueurs et en crée une série de fausses cibles. Du coup, nous avons dû trouver un moyen de contourner ce problème et nous avons réussi. Alléluia !
Eh ben, c'est des génies, hein.
Mais ça, c'est du James Cameron pur et dur. Ouais. C'est son truc.
Et encore une fois, on commence à entendre quelques cyniques qui disent « Ouais, James Cameron va encore se planter. on va encore voir des bonhommes bleus, etc. etc. » Enfin,
comme d'habitude, ouais, faut plus y faire attention.
Non, faut plus y faire attention.
De toute façon, soit on aime, soit on n'aime pas.
À chaque fois, il met tout le monde.
En général, ce qui se passe, c'est qu'avant que les films sortent, tout le monde lui tombe dessus et annonce que ça va être un échec. Une fois que le film sort, tout le monde adore.
Tout le monde se met d'accord. On va le voir 2-3 fois d'affilée. On emmène ses parents, sa famille, tout ça. Enfin, tout le monde. C'est la sortie ultime. Voilà. On va plus au cinéma.
Même
mais
quand
on y
il
retourne.
Repasse à la télé, on le revoit. On se dit,
exactement.
Oh, je l'ai déjà vu. Oh, mais c'est trop beau, je le vois quand même.
Mais oui, c'est des histoires universelles. C'est des performances techniques qui sont incroyables. Là, il nous a, en plus de la performance capture sous l'eau, il annonce un film tourné en HFR, donc vraiment avec un ratio d'image hyper poussé, le plus réaliste possible.
Je crois qu'il veut aller à 90 images secondes, il me semble.
Pas loin de 100 même d'ailleurs, je crois. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était Peter Jackson qui a tourné en 48 images secondes les Hobbits, donc qui ont un peu décontenancé une partie du public. Mais là, il annonce carrément un film tourné en presque 100 images par seconde, en 3D et sans lunettes. C'est-à-dire qu'on pourra aller voir le film.
Mais ça, c'est pas pour le 2, hein.
Si, bien sûr.
Alors, la 3D sans lunettes, on n'a pas trop d'informations dessus. C'est ce qu'il avait annoncé. Après, on va voir s'ils y arrivent.
Déjà sous l'eau, ça va être pas mal.
Mais un tournage sous l'eau, et on sait surtout qu'il y a une équipe, on va pas spoiler l'histoire d'Avatar 2, puis de toute façon on n'a pas encore beaucoup d'éléments, mais on sait qu'il y a un jeune casting, il y a quand même beaucoup d'enfants et d'adolescents qui ont été castés.
Oui.
Et exact. Qui ont dû, malgré leur jeune âge, apprendre à retenir leur respiration 4 minutes sous l'eau.
Ben c'est ce qu'il dit. Nous avions 6 adolescents et un enfant de 7 ans. Ils ont tous joué une scène sous-marine. Nous les avons entraînés 6 mois durant, notamment sur leur souffle, afin qu'ils retiennent entre 2 et 4 minutes, donc leur souffle. Ils sont maintenant parfaitement capables de jouer sous l'eau de façon très calme, tout en gardant leur souffle. Nous avons des résultats vraiment saisissants. On peut dire que nous avons hacké le code, comme même si nous sommes toujours dans le petit bassin, nous irons dans le grand dès janvier.
Bon, en tout cas, les parents, ils ont dit oui.
Oui.
Tu veux jouer un avatar? Oui, vas-y.
Ce sera quelques scènes. Hein.
Oui, bien sûr.
Même le producteur John Lando, en 2010 et 2013, évoquait déjà la difficulté de ce type de tournage pour quelques scènes seulement. On a quand même très hâte de voir ça.
Il a avancé
juste
un puits Titanic.
Oui, puis surtout The Abyss, qui avait eu un tournage à moitié sous-marin dans un énorme tank rempli d'eau et qui avait
donc
été très dangereux.
Donc il va refaire Titanic 2 et puis il va pas mourir parce qu'il sera respiré dans l'eau.
Voilà, en fait c'est ça, voilà. C'est ça le truc.
Comme le fameux la fameuse fausse bande-annonce qu'on avait vue qui tournait sur internet où on voyait en fait que Leonardo DiCaprio était remonté à la surface.
D'ailleurs, en parlant de Titanic et d'Avatar, Kate Winslet, l'héroïne de Titanic, a été castée dans les suites d'Avatar.
Non.
Si. Donc c'est les retrouvailles entre James Cameron et Kate Winslet.
Ah oui, là, vous m'annoncez des bonnes nouvelles, là.
Ah là,
c'est la nouvelle.
C'est la nouvelle.
Ouais, et puis c'est une excellente comédienne, on est hyper
content.
Oui,
on est super content de revoir Kate Winslet. Sigourney Weaver sera également de la partie, a priori.
Sous quelle forme?
Elle est morte.
Sous quelle forme?
Dans une plante, peut-être.
Ou un insecte.
Dans
la biodiversité.
Ok.
Donc voilà, on est très très impatients. C'est toujours très intéressant d'avoir ces petites news comme ça, ces grosses informations du coup concernant le tournage d'Avatar, parce que c'est quand même quelque chose
d'attendu
qui va encore mettre tout le monde d'accord, quoi qu'en pensent certains.
Mais on toujours pas de date, on est d'accord. Hein.
Alors, s'il y a une date pour le Avatar 2, c'est le 18 décembre 2020.
18 décembre 2020.
Finalement, c'est dans pas si longtemps.
Hein. Oui, voilà, on hiberne un petit peu, puis on attend que ça arrive.
Sachant qu'ils tournent le 2 et le 3, comme on dit, back to back. Hein, c'est, voilà. Et alors, a priori aussi, il a annoncé aussi Avatar 4 et 5. Ça, par contre, voilà. Il a dit récemment, je crois que tu as vu une news, Pierre.
Que, en fait, le 4 et le 5 seraient tributaires du succès financier du 2 et du 3. Donc, si le 2 et le 3 fonctionnent, évidemment, on aura le 4 et le 5. Si ça marche pas, malheureusement...
Évidemment, mais tout dépendra effectivement du succès en salle. On espère vraiment, on touche du bois pour que à chaque film il y ait quelque chose de d'incroyable qui nous époustoufle et qu'il n'y ait pas de ce phénomène de lassitude qu'on peut constater aujourd'hui sur les franchises type Marvel, DC. Ça fait des millions et des millions de dollars, ouais. Voire des milliards au box office. Il y a un phénomène de lassitude de la part de tous. Hein, on va pas se mentir, mais voilà, on continue à les voir. Tandis que là, on a un projet original qui s'étale sur 4 voire 5 films avec une mythologie, avec une grandeur, une ampleur qu'on a hâte de découvrir. C'est l'œuvre d'un seul homme.
On se prenait déjà une planète, des animaux différents, des gens différents, couleurs, des plantes. Enfin, il y avait.
Il construit tout.
Une magie.
Il adapte rien, il construit tout. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent.
Et ça a beau être un film qui est sorti en 2009, aujourd'hui, il a quasiment pas vieilli. Hein. Si on le regarde en Blu-ray, il est magnifique. Ça marche toujours aussi bien.
Carrément.
Magique. Bon, et bah, la news concernant Avatar 2 pour 2020.
Voilà.
D'autres news peut-être?
Oui, alors là, on attaque Justice League parce qu'on est à un peu plus d'une semaine maintenant de la sortie de Justice League et voilà, qui est sortie donc le 15 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 27 et on peut faire un petit bilan déjà quand même.
Je sais pas, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Hein.
Même pas en mal?
Même pas en mal, je crois que les gens ils sont même pas
il y a un phénomène de lassitude hein, de toute façon, en fait, ça c'est clair et net hein.
Je m'attendais à en avoir entendu un peu plus parler de notre équipe mais pas
c'est...
trop.
Mais déjà il faut savoir que bah, alors c'est le gros accident industriel de cette fin d'année.
Oui,
Justice
terrible,
League
hein.
Warner n'a pas organisé de projection presse en amont à part quelques-unes mais très confidentielles. Il y a eu un bad buzz assez cataclysmique quand même pour le film. Malheureusement, Zack Snyder, qui était le réalisateur du film, a dû partir quelques mois, je crois, avant la fin du tournage, suite à un drame familial. Le film a été repris par Joss Whedon, le réalisateur des Avengers. Et le résultat est que moi, je suis allé voir le film. J'ai passé un moment mais épouvantable. Je ne comprends même pas comment le film a pu être présenté en l'état.
D'accord. Ouais, à la base, ça devait nous raconter quoi, celui-là de Justice League?
C'était quand même la réunion ultime des super-héros d'ici. Batman, voilà. Superman, Cyborg, Wonder Woman. C'était le film attendu. C'était ce sur quoi Warner a basé tout son univers cinématographique d'ici, avec les Man of Steel, Superman, Batman d'à côté, etc., etc.
Il avait sauvé la planète.
C'était censé être le film ultime qui devait faire la nique, si je puis dire.
Avengers. Et voilà, c'est Warner contre Marvel. Hein, c'est ça, c'est les super-héros DC contre les super-héros Marvel. C'était en théorie le cheval de bataille pour affronter les Avengers, qui sont aujourd'hui le succès grand public de
D'accord,
super-héros.
D'accord, mais là, si le réalisateur il a pas pu terminer, qu'ils ont pris le réalisateur d'Avengers, ça coince.
C'est déjà significatif. Ils sont allés chercher l'homme responsable du succès Avengers pour terminer
Ils auraient dû en prendre
Justice
un autre.
League. Et
oui,
malheureusement,
mais
ça n'a pas marché.
Pourquoi Joss Whedon? Parce que suite au précédent film de DC, on a donc Batman vs Superman, Suicide Squad, qui en fait ont cartonné au box-office, mais qui n'ont pas eu un comment dire, ils étaient trop sombre, donc ils se sont dit on va prendre Joss Whedon qui est dans cette veine un peu plus légère pour essayer d'injecter ça dans les films DC. C'est la nouvelle tournure maintenant des films DC Warner, c'est
d'injecter du sombre et mettre de la lumière.
Exactement. Voilà, c'est ça. Sauf qu'on se rend compte,
il y a un problème de direction. Hein. On sait que Marvel, de positionnement. Marvel, on aime ou on n'aime pas, mais il y a une ligne directrice. C'est un univers et tous les films sont très similaires, très semblables, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se construit dans la durée.
Il y a une unité.
Qu'on aime ou on n'aime pas. Par contre, DC et Warner, on sent qu'ils savent pas du tout où aller. Ils savent pas où ils vont et donc les films sont différents les uns des autres. Finalement, Man of Steel ne correspond plus à ce que fait Justice League et là, c'est un retournement de situation. C'est une greffe artificielle d'un truc qui finalement ne marche pas.
C'est comme Batman vs Superman. Le film est ce qu'il est.
Moi, je l'ai pas compris ce film. Voilà, désolé, mais.
Et après, Warner capitalise sur les versions Director's Cut en vidéo. Sauf que, c'est pas ça qui nous intéresse, nous, au départ. C'est de voir le film tel qu'il doit être en salle, peu importe qu'il fasse 2h30 ou 3h, on veut voir un film avec une narration, avec quelque chose qui nous emporte. Je veux dire, la rencontre Batman-Superman, c'était quand même le choc des titans. C'est le choc des titans et ça ne se produit pas. Donc là, Justice League, 481 millions de dollars au box-office monde pour un budget de 300 millions. Forbes a sorti un article la semaine dernière. Le film terminera sa course aux alentours de 635 millions de dollars contre les 900, voire le milliard qu'il aurait dû totaliser. C'est une catastrophe pour Warner qui va sans doute perdre à peu près 50 millions de dollars.
D'accord, donc en France aussi, pas terrible. Box-office, pas terrible.
Non, mais je crois qu'il y a eu un phénomène de curiosité comme chacun des gros films comme ça. Et puis après, le bouche à oreille.
Et puis ça reste Batman. Les gens veulent voir Batman au cinéma, quoi qu'il arrive. Hein. Ça reste iconique, hyper. Mais en fait, ce qu'on espère, c'est toujours dramatique quand un film se casse la figure. Mais ce qu'on espère, c'est qu'il y aura vraiment une remise en question chez Warner. Parce que c'est très problématique leur univers cinématique d'ici.
Remise en question, je sais pas. Il suffit de reprendre les dires de Mark Millar, le scénariste de Kick-Ass ou de Kingsman, qui déjà en 2016, juste avant la sortie de Batman vs Superman, disait si Batman vs Superman, qui donc a quand même fait 840 millions de dollars de recettes au box-office mondial, si Batman vs Superman plafonne à 600 millions de dollars de recettes comme Man of Steel, alors ce sera fini pour DC Warner. Ils cesseront la mise en chantier des autres films, ils auront perdu trop d'argent. À partir de 1 milliard et demi de dollars de recettes, là, oui, ils seront dans une zone de rentabilité. Au début, les budgets étaient traditionnellement autour de 150-200 millions. Maintenant, ils sont en train d'approcher les 400 millions de dollars juste pour la conception d'un film. Ça devient fou.
C'est complètement démentiel.
C'est
dingue.
Pour en plus oublier le plaisir du spectateur.
Donc après, déjà ça. Après, pour en revenir au positionnement, je suis même pas sûr, parce que même le PDG de Time Warner reconnaît que les films ont des problèmes narratifs, mais bon, manifestement...
Oui, ça le gêne pas, il avait dit, oui, effectivement, on est conscient que nos films sont pas forcément très bons, mais ils rapportent de l'argent.
Voilà.
D'accord.
C'est ce qu'il avait dit.
À partir de là, on a tout dit.
Voilà, on a tout dit. Une dernière petite news qu'on retrouve donc sur fanfootage.fr pour terminer, puis après on se retrouvera tout à l'heure, bien sûr, pour un film, coup de cœur ou coup de gueule. Peut-être les prochains super-héros, ils arrivent quand les prochains ? Wonder Woman 2, par exemple, ça va arriver bientôt ?
Bah, Wonder Woman 2, c'est en tournage sous peu, je crois. C'est prévu pour octobre 2019, donc on a le temps, mais je crois qu'il y a des soucis avec le scandale sexuel qu'il y a pour le moment à Hollywood, parce qu'il y a un des producteurs qui s'appelle Brett Ratner, qui est un des partenaires de production exclusifs avec la Warner. Gal Gadot, donc l'actrice principale de Wonder Woman, a dit « Tant que Brett Ratner sera à la production de ce film, je ne jouerai plus Wonder Woman ».
D'accord.
Et a priori, c'est toujours réalisé par Patty Jenkins.
A priori, toujours elle, voilà.
Qui était déjà derrière le premier Wonder Woman.
Un petit tweet du jour, peut-être, ou de la semaine pour fanfootage.fr, et on termine avec ça.
Un petit tweet du jour. Qu'est-ce qu'on a
du jour ou de la semaine qu'est-ce qui.
Ah, si, un petit tweet.
Ah.
On a eu la chance de voir Downsizing, le nouveau film d'Alexander Payne.
D'Alexander Payne. Ça vous a marqué. Hein.
Voilà. Non, mais.
Pourtant, comme... c'est très très bien.
Oui, parce que comme le film sort en janvier, c'est pour ça qu'on a le temps.
Loin, oui.
Et donc. Super film, on a eu l'immense privilège d'être repris pour la campagne marketing par le studio Paramount France, on les salue bien.
Ah, vous voilà. Êtes repris de tout le monde. Voilà, et en exclusivité ici sur Séance Radio, toute l'équipe de fanfootage.fr, Pierre, Thomas, je vous retrouve tout à l'heure pour un film coup de cœur ou coup de gueule. Merci beaucoup.
À tout à l'heure.
De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.